RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/frenh.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi les nouvelles de l'Indonésie et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter Mon Indonésie, le magazine culturel L'Indonésie en couleur et les magazines musicaux. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et les nouvelles de l'Indonésie.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. L'Indonésie et la Russie tiendra la 12e réunion de la commission mixte à Moscou. Le vice-président de l'Assemblée a assisté à l'Assemblée suprême de la Ligue mondiale islamique. L'Indonésie partage l'expérience de la lutte contre la traite des êtres humains. La Fondation bouddhiste indonésienne, Suci, et la TNI construiront 3000 maisons pour les victimes du séisme. Le ministère des Affaires étrangères a dit que l'avenir de l'Indonésie dépend de la gestion de la mer. L'Arabie Saoudite augmente ses importations d'appareils ménagers indonésiens. La dernière, 15 pays participent à la semaine du Batik Nusantara à Pekalongan. Bon, les auditeurs, voici le journal complet. Le gouvernement de la Fédération de Russie accueillera la 12e session de la commission conjointe entre l'Indonésie et la Russie dans les domaines du commerce, de l'économie et de l'ingénierie, qui se tiendra dans la ville de Moscou le 26 octobre. L'ambassadrice de la Fédération de Russie en Indonésie, Madame Lyudmila Forobiva, a déclaré mercredi 17 octobre à Jakarta à RRI que la délégation de la commission mixte indonésienne serait présidée par le ministre de la Coordination des Affaires économiques, Darmin Nasution, tandis que les délégations russes seraient présidées par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Denis Fimanturov. La semaine prochaine, nous organiserons une session conjointe de la Commission entre les gouvernements des deux pays en coopération dans différents domaines. Le chef de la délégation russe sera le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur Manturov, et du côté indonésien, le ministre de la Coordination de l'Économie, Monsieur Darmin Nasution. C'est donc une excellente occasion de discuter de divers efforts visant à encourager les relations entre les deux pays dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement. Selon Mme Lyudmila Vorobiva, la 11e réunion de la commission conjointe entre l'Indonésie et la Russie s'est tenue à Jakarta en 2016, alors qu'en 2017, le gouvernement de la Fédération de Russie ne pouvait le faire pour des raisons techniques, de sorte qu'il ne pouvait être mis en œuvre que cette année. Lors de la 11e session de la commission mixte, l'Indonésie et la Russie ont discuté de divers programmes stratégiques dans les domaines du commerce, de l'industrie, des investissements, de l'énergie, des transports, des infrastructures, de la culture, du tourisme, des hautes technologies et de la santé afin de renforcer les relations bilatérales. Le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple indonésien, ou MPR, Hidayatul Wahid, a assisté à la 43e plus haute assemblée de la Ligue islamique dans la ville de Mecca, en Arabie saoudite. Dans un communiqué de presse à Jakarta, vendredi 19 octobre, on a rapporté que cette activité a été assistée par les pays membres de la Ligue mondiale islamique de diverses parties du monde, dirigée par le mufti du Royaume d'Arabie saoudite, le docteur Abdul Aziz bin Abdullah Al-Shaykh, et le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, docteur Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa. Ils ont discuté divers problèmes du monde islamique contemporain. On considère que la Ligue islamique mondiale a tenté de manière optimale de trouver des solutions aux problèmes des musulmans dans diverses parties du monde. L'Assemblée suprême de la Ligue mondiale islamique a également assisté par le grand prêtre de la mosquée Al-Haram et Al-Mosquée Al-Nabawi, Sheikh Dr. Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al-Soudais, et les autres personnalités et ulémas islamiques du monde, y compris le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple indonésien et le président général de l'Association des grands savants saoudiens. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire du ministère de l'autonomisation des femmes et de la protection de l'enfant, a partagé l'expérience de la lutte contre la traite des personnes lors de la conférence des parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée à Vienne, en Autriche. Cela a été dit par l'adjoint chargé de la protection des droits des femmes au ministère de l'autonomisation des femmes et de la protection de l'enfant, Fenetia Erdenes, par le communiqué de presse à Jakarta, vendredi 19 octobre. Selon Fenetia Erdenes, l'Indonésie considère que la question de la traite des êtres humains est très importante et devient l'agenda principal national. Ces problèmes doivent être traités de manière globale par la prévention, la protection et les poursuites. Dans le domaine de la prévention, le gouvernement indonésien a créé un groupe de travail sur la prévention et le traitement de la traite des personnes dans 32 provinces et 192 villes. Le gouvernement indonésien a également préparé un mécanisme de surveillance pour superviser les agences de recrutement et de formation, y compris les centres de réadaptation. La Fondation bouddhiste indonésienne, Zuchi, fournira une aide humanitaire sous la forme de 3000 unités de maisons aux victimes du séisme à Lombok, dans l'ouest de Nusa Tenggara, ainsi que du séisme et du tsunami dans la ville de Palu, la région de Donggala et dans la région de Sigi, dans le Sulawesi central. C'est ce qu'a déclaré par le commandant de la TNI, le maréchal Hadi Cahyanto, lors de la signature du mémorandum d'accord entre la Fondation indonésienne bouddhiste Zuchi et l'Armée nationale indonésienne ou TNI au siège de TNI à Cilangkap, à l'est de Jakarta, dans une déclaration reçue à Jakarta, mardi 16 octobre 2018. Le mémorandum d'accord sur l'assistance humanitaire pour la restauration après un désastre à l'ouest de Nusa Tenggara et à Sulawesi central, signé par le vice-président de la Fondation bouddhiste Zuchi Indonesia, Franky O. Wijaya, et le commandant de la TNI Hadi Cahyanto. Pour le commandant des forces armées indonésiennes, 3000 maisons pourraient alléger le fardeau des personnes touchées par le séisme et le tsunami. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que l'avenir de l'Indonésie en tant que pays de l'archipel dépend également de la gestion durable de la mer et de ses ressources. Cela a été transmis par le ministre Retno Marsudi lors de la conférence Our Ocean, ou en français Notre Océan, au ministère indonésien des Affaires maritimes et de la pêche à Jakarta récemment. Cette conférence aura lieu à Bali à la fin d'octobre. Cet événement sera différent des autres conférences en général, car cette conférence n'est pas seulement intergouvernementale, il implique également de nombreuses parties prenantes telles que des ONG et des organisations de jeunesse. La ministre indonésienne des Affaires maritimes et de la pêche, Susi Pujiastuti, avait invité tous ceux qui aiment les mers du monde entier à assister à l'organisation de la conférence Our Ocean à Bali le 29 et 30 octobre. Le Centre indonésien de promotion du commerce, ou ITPC Jeddah, et le consulat général de la République d'Indonésie s'efforcent d'accroître les importations des appareils ménagers indonésiens par le biais de réunions d'affaires avec des importateurs d'Arabie Saoudite. Le consul général d'Indonésie à Jeddah, M. Heri Saripudin, dans sa déclaration reçue par Antara à Jakarta récemment, a déclaré que la visite de l'ITPC et du consul général d'Indonésie à Jeddah visait à continuer à introduire des produits indonésiens et à établir une communication intensive entre les importateurs saoudiens avec les producteurs indonésiens. Heri Saripudin a expliqué que la réunion avait eu lieu le 19 septembre avec Basura for Home Supplies, COLTD, au bureau de Basura, au centre d'affaires de Handawiyah à Jeddah, en Arabie Saoudite. Basura est une société importatrice qui agit également en tant que distributeur et détaillant de produits de fissures en verre, de matériel de cuisine et d'appareils ménagers. Selon la responsable de l'ITPC Jeddah, Gunawan, la baisse de la valeur des importations est causée que Basura avait des difficultés à obtenir des produits de bonne qualité et des prix compétitifs. ITPC Jeddah facilitera les réunions de Basura avec les exportateurs de fabricants d'appareils ménagers et le Conseil de coordination des investissements lors d'une visite à l'exposition indonésienne du commerce à Tangerang du 24 au 28 octobre. 15 pays participaient aux activités de la semaine du batik de Nusantara. Cette activité sera organisée par la municipalité de Pekalongan, Java Central, du 20 au 24 octobre. Le chef chargé des coopératives des micro, petites et moyennes entreprises du ministère de l'Industrie, du Commerce, des coopératives et des petites et moyennes entreprises de la ville de Pekalongan, Chandrawati, à Pekalongan, a affirmé mercredi 17 octobre que ces 15 pays participaient à la réunion de travail au musée du batik le 20 octobre. Elle a expliqué qu'autres 15 pays, l'Allemagne avait également confirmé sa participation à cette activité. 15 pays qui participent aux activités de la semaine du batik de Nusantara en 2018 sont l'Ukraine, l'Arabie Saoudite, l'Arménie, le Pérou, la Corée du Sud, la Suisse et le Zimbabwe. Le secrétaire régional de la ville de Pekalongan, Sri Ruminingsi, a déclaré que les activités de la semaine du batik de Nusantara en 2018 présentaient diverses expositions comme les expositions touristiques des maisons de création du batik de Pekalongan, Pesona Batik Peranakan, et des photos d'une décennie de semaines de batik. Les auditeurs, c'est tout, les journaux d'aujourd'hui.
Les nouvelles de l'Indonésie. Les informations uniques et intéressantes de plusieurs régions d'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie, un programme qui présente de diverses infos intéressantes de divers coins de l'Indonésie dans une semaine. La première info vient de Tapanuli Sud, Sumatra Nord. Le développeur de la centrale hydroélectrique de Batang Toru, North Sumatra Hydro Energy, NSHE, société anonyme, ainsi que le gouvernement local et les dirigeants de la communauté ont planté divers arbres locaux pour enrichir les plantes multifonctionnelles du corridor faunique de Batang Toru dans le village Bulumaru, district Sipirok, région Tapanuli Sud, Sumatra Nord, lundi. Cette activité complète la collaboration NSHE, dans le cadre d'un mémorandum d'accord conclu avec l'Université Sumatra Nord et le gouvernement de la région Tapanuli Sud afin de préserver la durabilité de la région Batang Toru. Cet effort s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du règlement présidentiel numéro 4, l'an 2016, concernant l'accélération du développement des infrastructures électriques qui oblige toutes les parties, y compris les gouvernements locaux, à participer à sa réalisation. Ensuite, l'info de Kulon Progo, Yogyakarta. Le gouvernement de la région Kulon Progo lance des spectacles artistiques et culturels qui se sont développés aux frontières de diverses régions de l'Indonésie. Le spectacle, appelé Performance d'art frontalière, a duré 3 jours, du 17 au 19 octobre. Separat fait partie d'une série de festivals d'art menorais qui célèbre le 67e anniversaire de Kulon Progo. Des centaines d'artistes de Bantul, Gunung Kidul, Sleman, Jember, Magelang, Banyuwangi, Banyumas et Purworejo ont participé à la représentation d'art de la frontière. Les actions des artistes montrent une identité forte pour chaque région, même si elles ressemblent à la région environnante. Le secrétaire du service culturel Kulon Progo, Joko Mursito, a déclaré que le gouvernement continuait de renforcer les arts et la culture qui se trouvaient à la frontière de Kulon Progo afin de renforcer l'identité de la communauté locale. L'identité est importante en tant que facteur de différenciation par rapport aux régions voisines, suscitant la fierté et l'amour des citoyens de leur région. Joko Mursito a déclaré que ce type de performance n'était pas seulement un lieu de renforcement de la culture, mais devenait en même temps un forum d'accueil et de promotion du tourisme. Le dernier, l'info de Yogyakarta. Afin d'inculquer aux élèves des valeurs de caractère national par le biais de l'art et de la culture, la Direction générale de l'apprentissage et des affaires étudiantes du ministère de la Recherche, de la Technologie et de l'Enseignement supérieur a organisé une semaine nationale de l'art pour les étudiants, PEXIMINAS, qui s'est tenue du 15 au 21 octobre à l'Institut d'art indonésien ici, Yogyakarta. Le directeur des affaires étudiantes Didin Wahidin, le chancelier de l'ICI de Yogyakarta, Agus Burhan, le recteur de l'Université Gajah Mada, Panut Mulyono, et l'Agence indonésienne de création artistique pour étudiants BPSMI de la région Yogyakarta ont assisté à la cérémonie d'ouverture de PEXIMINAS dans le champ Pancasila de l'Université Gajah Mada. Dans son discours, le directeur des affaires étudiants a déclaré qu'en participant à ce concours, les étudiants recevaient non seulement des prix, mais également beaucoup d'autres choses. La mise en œuvre de PEXIMINAS a lieu tous les 2 ans. En 2018, il s'agit du 14e PEXIMINAS où les participants sont les meilleurs étudiants qui se qualifient pour la Semaine régionale de l'art étudiant PEXIMIDA. La mise en œuvre du PEXIMINAS 2018 a été suivie par 33 BPSMI avec un total de 1036 étudiants et 441 officiels. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 20 octobre. Le 20 octobre 1973, le bâtiment opéra de Sydney a été officiellement inauguré par la reine Elizabeth II. Le bâtiment opéra de Sydney, à Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud, est l'un des bâtiments les plus uniques et les plus célèbres du XXe siècle. Ce bâtiment est situé à Bennelong Point, dans le port de Sydney, près du pont Sydney Harbour. La vue que ces deux bâtiments est une icône pour l'Australie. Pour les millions de touristes qui viennent, ce bâtiment a un appel dans sa forme comme une coquille. En plus d'être une attraction touristique, ce bâtiment est également devenu un lieu de spectacles théâtraux, de ballet et d'autres arts. La conception a été dérivée d'un concours remporté par John Hudson du Danemark en 1955. Ce bâtiment a également été inclus dans la liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007. Ensuite, Abdurrahman Wahid a été assermenté à titre de quatrième président de l'Indonésie. Abdurrahman Wahid, communément appelé Gus Dur, était une personnalité musulmane indonésienne et un dirigeant politique qui est devenu président de l'Indonésie de 1999 à 2001. Il a remplacé le président B.J. Habibie après avoir été élu par l'Assemblée consultative du peuple indonésien à la suite des élections générales de 1999. L'administration de son gouvernement était assistée par le cabinet de l'unité nationale. La présidence d'Abdurrahman Wahid a débuté le 20 octobre 1999 et s'est achevée à la séance extraordinaire du MPR de 2001. Exactement le 23 juillet 2001, après la révocation de son mandat par le MPR, son leadership a été remplacé par Megawati Soekarnoputri. Nous clôturons l'histoire d'aujourd'hui ce soir avec l'inauguration de Susilo Bambang Yudhoyono en tant que sixième président de l'Indonésie. Susilo Bambang Yudhoyono est le président indonésien qui exerce ses fonctions à partir de 20 octobre 2004. Il était accompagné du vice-président Yusuf Kalla et avait été élu à l'élection présidentielle de 2004. Il avait réussi à poursuivre son mandat pour la deuxième période en remportant à nouveau l'élection présidentielle de 2009, cette fois avec le vice-président Budiono. Depuis le début de la réforme, Susilo Bambang Yudhoyono a été le premier président indonésien à siéger à la présidence du Conseil pendant 5 ans et a été réélu avec succès pour la deuxième période. Avant de devenir président, Susilo Bambang Yudhoyono avait été ministre des Mines et de l'Énergie en 1999 et était l'un des fondateurs du Parti démocrate. Le dernier rang de Susilo Bambang Yudhoyono était général de l'armée nationale d'Indonésie avant de prendre sa retraite le 25 septembre 2000. Cher ami, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers amis, nous continuons notre émission avec Mon Indonésie et en beau titre, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, OAA, soutient l'optimisation des marais pour accroître la production alimentaire. L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies, soit OAA des Nations Unies, soutient l'optimisation des marécages pour accroître la production alimentaire nationale. Ce soutien a été communiqué par le représentant de l'OAA en Indonésie, Stephen Rugard, lors de l'ouverture de la Journée mondiale de l'alimentation au village de Jangkit, région Sbarito Kuala, Kalimantan Sud, jeudi 18 octobre. Stephen Rutgard a déclaré que la focalisation du gouvernement indonésien sur la Journée mondiale de l'alimentation 2018 sur le thème « Optimiser les marais de marécage terrestre et l'eau douce en Indonésie pour devenir le grand alimentaire mondial » en 2045 a constitué un grand pas avec différents défis à relever. L'OAA a noté que selon l'estimation du gouvernement indonésien, l'Indonésie comptait environ 34 millions d'hectares de marécages et que son potentiel de production agricole était 9 millions de plus que la superficie totale des marais. Comme dans le district de Jangkit, plus de 3000 hectares sont cultivés dans le cadre du nouveau programme. Selon Stephen Rutgard, son parti voit le leadership du gouvernement dans ce cas. Il est également très heureux que le ministère de l'Agriculture encourage l'adoption de bonnes pratiques agricoles liées à l'application du modèle de l'OAA. Rutgard a également apprécié les efforts pour intensifier la production alimentaire durable, notamment en réduisant l'utilisation de pesticides grâce à la lutte antiparasitaire intégrée. Il a également souligné que l'augmentation de la productivité est très importante pour nourrir une population croissante, mais surtout pour adopter une approche agricole durable dans diverses interventions agricoles. Selon lui, le gouvernement indonésien doit continuer à augmenter la production de riz afin de garantir la sécurité alimentaire. À l'échelle mondiale, la production alimentaire doit être doublée en 2050 pour assurer une disponibilité alimentaire suffisante et nourrir une population de plus de 9 milliards d'habitants. À ce moment-là, selon Rutgard, la population indonésienne atteindrait 300 millions d'habitants parallèlement à l'urbanisation croissante et à l'évolution de la demande des consommateurs, ce qui imposerait une grande pression sur le système alimentaire en Indonésie. La commémoration de la 38e Journée mondiale de l'alimentation au village de Jangkit Muara, district de Jangkit, région Sbarito Kuala, en province Kalimantan Sud, s'est déroulée au milieu d'une rizière de marais. Des invités spéciaux de diverses régions de l'archipel et 22 représentants de diplomates et d'ambassades de pays amis ont également assisté à la commémoration. Le gouvernement indonésien était représenté par le ministre de l'Agriculture, Andi Amran Sulaiman, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Syukur Iwantoro, et le chef du bureau de planification du ministère de l'Agriculture, Kasdi Subagiono. Chers amis, c'était Mon Indonésie. connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions indonésiennes. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous présenter la danse de masque Getak de la réserve de Pamekasan, Madura. L'Indonésie se compose de diverses tribus. Pas étonnant, si l'Indonésie est riche en art et culture, mais il n'y a pas peu d'êtres qui soient presque éteints. Pour cette raison, afin d'être encore durable, diverses efforts sont menés. Par exemple, à Pamekasan Madura, Java East, qui conserve l'un de ses principaux arts régionaux, à savoir la danse au masque Getak. La danse de masque Getak est l'une des danses traditionnelles qui font partie de la performance de Ludruk Sandur. Ludruk Sandur ou Sandur est une sorte d'art populaire qui est le plus aimé par les gens de Pamekasan. L'art de Sandur est toujours effectué dans tous les événements comme la fête de mariage, la circoncision, etc. Pas étonnant que tous les gens de Pamekasan connaissent cet art. Dans la performance de Ludruk Sandur, la danse de Max Getak est présente comme l'ouverture de la performance de cet art. La danse de Max Getak est connue sous le nom de danse Klonoan. Chaque mouvement de la danse dépend du son de kendang ou de tambour qui sonne ge et tak. Le son de tambour qui fait la danse est nommé la danse du masque Getak. Jusqu'à présent, le nom de Klonoan n'est plus utilisé et change à la danse du masque Getak. La danse traditionnelle décrit une figure de Prabhu Baladewa dans la performance du masque Dalang Madura. Cette figure est très fière par les gens de Madura. Baladewa est une figure avec un caractère fort, rigide et ouvert d'esprit à révéler tous les problèmes. Les personnages sont considérés comme décrivant le personnage des Madurais en général. Le gouvernement régional de Pamekasan a décidé la danse de masque Getak comme danse traditionnelle principale de la réserve de Pamekasan. Depuis 2010, la danse de masque Getak a commencé à être enseigné aux étudiants en tant que programme supplémentaire. Il est estimé cela est efficace pour protéger la préservation de cette danse traditionnelle. Chères auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « La danse de Mars Getak de la résidence de Pamekasan, Madura ». Demain, nous nous retrouvons avec un nouveau sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Warna-warni. L'Indonésie en couleur présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur et en petit titre, extrait de zeste de mangoustan préservatif au Chili. L'appétit de la plupart des Indonésiens n'est pas loin de la nourriture épicée. En plus de nombreuses recettes traditionnelles, l'Indonésie produit également ses propres matières premières. Le chili est la matière première des aliments épicés. La production de chili est à présent menacée par plusieurs facteurs, notamment les modes de transport, et les conditions météorologiques instables, ainsi que par les parasites qui ne s'attaquent pas pendant la plantation, mais pendant la phase de stockage. Les champignons Coletotrichum capici sont l'une des principales bactéries responsables de la pourriture de l'anthracnose. Non seulement en attaquant la phase de culture, mais cet agent pathogène peut également infecter le piment récolté. Apparemment, il existe un moyen relativement sûr de conserver un produit agricole, notamment en appliquant des applications d'enrobage, de fruits ou d'autres produits agricoles sans danger pour la consommation, soit enrobage comestible. L'une d'entre elles est la méthode appliquée par un étudiant de l'Institut d'agriculture Bogor, IPB, du département de la protection des végétaux de la faculté de l'agriculture. Il s'appelle Hassan Bisri. Il a mené des recherches sur la manipulation post-récolte avec l'application d'un enrobage comestible à base d'extrait de zeste de mangoustan pour lutter contre les pathogènes de la maladie de l'anthracnose chez le piment. Les enrobages comestibles sont fabriqués à partir de farine de sagou, de carboxyméthylcellulose et de glycérol ajouté en extrait d'écorce de mangoustan. L'ajout d'extrait brut d'écorce de mangoustan a permis de réduire 57% de la gravité de la maladie de l'anthracnose chez le piment et d'allonger la période d'incubation de Coletotrichum capici de 94%. Trois traitements ont été testés. Le traitement à l'extrait de zeste de mangoustan, le contrôle négatif et le contrôle positif. Sur la base du test in vitro, l'addition d'extrait de zeste de mangoustan avec une concentration efficace est 50%. Cela montre que l'extrait brut de zeste de mangoustan peut inhiber la croissance de Coletotrichum capici, la cause de la maladie anthracnose au Chili. Selon Hassan Bisri, la peau de mangoustan contient des composés dotés de propriétés antioxydantes, antitumorales, anti-inflammatoires, anti-allergiques, antibactériennes, antivirales, antipaludiques et antifongiques. L'antifongique présent dans l'écorce de mangoustan a le potentiel d'inhiber les champignons pathogènes responsables de la pourriture de l'anthracnose, car il est l'aptitude de ces composés chimiques à inhiber la croissance des champignons. L'extrait d'écorce de mangoustan a fait l'objet de nombreuses recherches et a démontré de nombreux avantages pour l'homme. La peau de mangoustan est aussi depuis longtemps un remède à base de plantes pour les peuples de l'Asie du Sud-Est. Hassan espère que cette découverte pourra maintenir la disponibilité de produits agricoles en préservant des produits agricoles sûrs pour la consommation. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Chers amis, Un grand merci de votre fidélité d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Avant de terminer cette émission, nous présenterons les chansons indonésiennes. Merci à tous. Au revoir.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir les auditeurs de RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie. N'importe où que vous soyez, on se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine musical qui vous présente les chansons indonésiennes. L'édition du magazine musical d'aujourd'hui va vous présenter des chansons de Raisa. Restez avec nous à RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie. Pour commencer notre rencontre, je vous donne la chanson intitulée « Serba Salah » ou en français « Je me suis complètement trompé ». Bonne écoute.
Jalani.
la chanson intitulée Serba Salah, interprétée par Raïssa. La chanteuse, dont le nom complet est Raïssa Andriana, a commencé à être connue du public après avoir présenté la chanson intitulée Serba Salah, publiée en 2011. Bien qu'elle soit encore relativement nouveau dans le monde du divertissement indonésien, Raïssa a réussi à voler le cœur d'un mélomène en pays par cette chanson. Cette chanson raconte un amour qui s'efface de sorte que tout semble différent. Quelque part, qui est coupable, personne ne comprend. Parfois, cela se produit, puis l'histoire d'amour doit se terminer. Les auditeurs, je vous présente ensuite une chanson dont le titre est Mantan Terindah.
Mengapa engkau waktu itu putuskan cintaku dan saat ini engkau selalu ingin bertemu dan mengulang jali cinta. Mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu.
Amis, vous venez d'écouter la chanson de Raïssa intitulée Mantan Terindah, qui signifie le meilleur ex. Cette chanson raconte un couple qui s'est séparé mais qui veut maintenant revenir. Mais parfois, l'amour n'est pas toujours facile. Même si le cœur le choisit, l'amour ne peut plus être uni. C'est l'une des 9 chansons du deuxième album de Raïssa intitulé Heart to Heart, sorti fin 2013. Cette chanson a été interprétée par Kahitna et a été créée par Yofi Widianto, qui est également membre de Kahitna. Cette chanson a été rechantée par Raïssa. Les auditeurs, je vous présente ensuite deux chansons de Raïssa intitulées « Pemeran Utama » ou en français « Personnage principal » et « Apalah Arti Menunggu » ou en français « Quel est le sens de l'attente ». Ces deux chansons terminent également notre rencontre d'aujourd'hui. Voilà le magazine musical de la Voix de l'Indonésie. Bonne écoute et à bientôt.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Telah
cinta wujudkan sebuah harapan. Namun ku rasa cukup ku menunggu, semua rasa telah hilang. Sekarang aku tersadar, cinta yang ku tunggu tak kunjung datang. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Namun ku rasa cukup ku menunggu, semua rasa telah hilang. Sekarang aku tersadar, cinta yang ku tunggu tak kunjung datang. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Dahulu kaulah segalanya.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook, The Voice of Indonesia, et Twitter, @voindonesia, ou bien Instagram, voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.